c'est un peu préhistorique, hein, ce que je vais dire, désolé, mais il y a un côté vendetta, oui, contre ce cancer. Il a tué Clémentine, moi je veux sa peau.
Bonjour, c'est Simon Icard, l'hôte de ce podcast. Vous allez écouter un épisode spécial en souvenir de Clémentine Lecal-Auvergnaud. Un épisode qui vous propose de vous joindre au combat et participer à la lutte contre le cholangiocarcinome.
Vous aimez mieux les disques ou la radio?
Mais c'est du podcast.
Oui, mais très bien, je vois très bien.
Tous les invités ont répondu présent.
C'est la bonté même, la générosité.
Nous sommes arrivés à un carrefour historique.
Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie?
Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement.
Bienvenue dans ce numéro édité à l'occasion de la semaine du Podcaston 2024. Pendant 7 jours, plus de 400 animatrices et animateurs de podcasts se mobilisent pour mettre en lumière le monde associatif et ses valeurs. Alors j'adore cette idée et je n'ai pas hésité une seconde à choisir de médiatiser la collecte de fonds et la démarche de la famille, des amis et du mari de Clémentine Vergniaud. Ils sont en train de créer une structure pour aider à financer la recherche et soutenir les patients touchés par un cancer rare des voies biliaires. Ce cancer de mauvais pronostic a un nom, c'est le cholangiocarcinome. Il est rare, mais touche de plus en plus de monde. La structure pour laquelle je vous invite à vous engager avec moi s'appelle le Fonds Clémentine Vergniaud contre le cholangiocarcinome. Clémentine, vous êtes très nombreux à avoir entendu sa voix. Elle s'est éteinte le 23 décembre 2023 après une lutte acharnée de 18 mois contre la maladie que cette journaliste de 31 ans a racontée dans le podcast France Info « Ma vie face au cancer ». Le journal de Clémentine. Un programme en 16 épisodes réalisé avec Samuel Aslanov et qui est toujours disponible à l'écoute sur toutes les plateformes et les sites de Radio France. Alors pour évoquer la poursuite de ses combats, je reçois son mari. Bonjour, Grégoire Lecal-Auvergnaud.
Bonjour.
Grégoire, tout au long de cet épisode, on va détailler les raisons qui t'ont poussé à entreprendre de créer un fonds de dotation contre le cholangiocarcinome. On va parler de Clémentine et des thématiques auxquelles elle a donné une voix puissante. On entendra aussi l'éclairage d'une professeure de médecine qui œuvre pour la recherche. Mais d'abord, je voudrais un peu parler de ton histoire avec Clémentine. Toi aussi, tu es un journaliste, comme elle l'était. Vous étiez rencontrés comment?
On s'est rencontrés à France Info, tout simplement, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire une rencontre qui a eu lieu au travail. C'était une première fois en 2019. Donc, en fait, Clémentine sortait d'un accident de la circulation qui avait eu lieu l'année précédente. Et cet accident, elle avait laissé en fauteuil roulant. Et elle avait dû remonter la pente marche par marche, en fait. Et une de ces marches l'a amenée à occuper des postes qui lui évitent de sortir sur le terrain parce que elle ne pouvait plus, pendant un moment, physiologiquement porter le NAGRA, c'est-à-dire l'enregistreur des reporters de radio. Donc, elle est venue à France Info sur ces postes-là. On s'est rencontrés, on s'est plu. Seulement, moi, à l'époque, j'étais engagé avec quelqu'un d'autre. Donc, à ce moment-là, ça ne s'est pas fait. Entre temps, il y a eu le confinement. Et puis, on s'est retrouvés l'année suivante. Et là, cette fois, j'étais libre. Et une amie de Clémentine qui posait la question lui a dit demande-lui, vois si c'est toujours possible. Et puis en fait on s'est reparlé et tout a commencé dans le pire train de France, c'est-à-dire le Paris-Clermont, donc train connu pour mettre des heures et des heures à rejoindre les deux villes et à produire des naufragés du rail en série. Et moi, ce jour-là, la radio m'avait envoyé à Clermont-Ferrand pour enregistrer une déclaration le lendemain matin du Premier ministre, qui était Jean Castex à l'époque. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient.
Un peu.
il a marqué. Et donc, j'ai pris ce train qui a mis 10 heures à rejoindre Clermont-Ferrand, qui s'est arrêté à chaque sanglier qui traversait la voie, qui a laissé passer tous les trains d'Europe devant lui. Et pendant ce temps-là, on échangeait des SMS avec Clémentine, d'abord quelques-uns, puis ça a duré comme ça toute la nuit. Et quand j'ai réussi à revenir de Clermont, parce qu'il y avait un train dans l'autre sens qui, lui, a beaucoup mieux fonctionné, heureusement, ben on s'est retrouvé avec Clémentine. Et puis, voilà, il s'est passé ce qui s'était pas passé l'année précédente.
Et son histoire, elle la raconte. Alors, elle ne raconte pas son histoire d'amour, mais tu es aussi présent dans les interviews qu'elle donne, mais aussi dans son podcast. On va le voir, évidemment. Vous étiez déjà très amoureux, mais vous étiez encore un jeune couple, si je peux dire, quand même, avant qu'elle ne te dise au téléphone, j'ai peut-être un cancer. C'est avec ces mots qu'elle te contactait. On peut dire que cela a marqué une étape tournante dans sa vie, évidemment, mais aussi dans la tienne. J'aborde ce point car tu as choisi de continuer d'avancer avec elle. C'était vertigineux, sûrement.
Oui, c'était vertigineux d'abord, cette effraction, en fait, de ce mot dans la vie d'une jeune femme et effectivement dans la vie d'un jeune couple, avec tout ce que ça peut avoir. Et ça a été un moment particulièrement difficile. D'abord, bah, y a immédiatement de l'incrédulité. C'est pas possible, enfin. Elle avait 29 ans. On comprend pas, enfin, qu'est-ce que c'est? Et puis, du coup, toutes les autres hypothèses prennent le pas, c'est-à-dire le cancer devient la dernière possibilité, et on cherche ce que ça peut être d'autre. Et puis petit à petit, au fil des jours, eh bien ces possibilités se sont invalidées, et donc il n'y aurait plus resté que ce cancer. Moi, ça a été un moment où il a fallu que je prenne une décision tout de suite. Très très vite, en quelques secondes, parce que j'ai compris que, même si à ce moment-là précisément j'espérais que ce soit autre chose, que de toute façon il était absolument hors de question pour moi de laisser Clémentine toute seule face à ça. Ça aurait été un abandon, et c'était impossible, c'était juste impossible. Donc c'est une décision qui n'a pas engagé que moi. Elle a engagé aussi d'autres personnes. Ça a été douloureux. Et vraiment, ça a été une bascule, un tournant, oui. Et jusqu'à ce qu'on nomme ce cancer.
Dans son podcast, Clémentine Vergniaud commence son témoignage avec le récit de la suspicion d'un cancer, en effet. Et puis là, la confirmation, comme tu le dis, de ce diagnostic. Et son premier épisode, alors toi, tu dis bascule, elle disait qu'elle avait l'impression que le bateau coulait. Ça a marqué, évidemment, dès le début, dès le premier épisode, chaque auditeur de ce podcast. Et ce qui marque aussi, c'est la précision de son témoignage et sa démarche qui a consisté à le partager par la voix avec des auditeurs de podcast et de France Info. C'est un podcast qui a aidé, qui aidera énormément de personnes, j'en suis certain. L'impact est déjà majeur. Tu l'as perçu à quel moment que c'était un podcast important qu'elle proposait?
Ben, quasiment à sa sortie. J'ai plus la date exacte en tête, mais je sais où c'était. On était à Nantes à ce moment-là. Clémentine était hospitalisée. Elle était partie en week-end chez des amis. Et puis le week-end, c'était vers le fin mai ou début juin, je sais plus trop.
Ah, c'était en juin, ouais.
Voilà, le week-end a finalement mal tourné. Et moi, je suis allé la rejoindre. Ça a été un moment de retrouvailles entre nous, parce que on avait eu des petits désaccords. arrive aussi, enfin des gros désaccords en fait, ça arrive aussi même dans le cancer, même pendant la maladie, la relation de couple elle continue. Et moi j'y ai toujours tenu à ça. C'était extrêmement important pour moi que la vie continue avec nos choix. Et moi je restais avec ma personnalité, mes choix, mes volontés et Clémentine les siennes. Donc on a eu un petit peu de mal à se mettre d'accord, mais finalement on y est parvenu. Et moi je suis allé la rejoindre. C'était un moment extrêmement heureux, un moment très ensoleillé. Elle était dans cet hôpital, elle venait de réussir à se faire opérer et elle pensait que c'était l'origine de ses douleurs et que ses douleurs allaient partir. Elle était très heureuse d'avoir pu réussir cette opération. Elle en a pleuré de joie après, quand elle est sortie du bloc. Et là-dessus, son podcast est publié. Et dès le premier jour, on a le nombre de likes et de retweets qui explose véritablement. Et là on comprend tous les deux, moi en regardant l'écran, parce que je à ce moment-là j'étais sorti, et Clémentine en voyant affluer les réactions, que ça allait être une énorme vague qui allait arriver. Et puis après elle a été contactée par des dizaines, des centaines de personnes. Et on a tout de suite vu que l'impact était majeur. C'est une question évidemment que Clémentine s'était posée, que France Info aussi s'était posée. C'était un podcast sur le cancer. C'est quand même un sujet dur, un sujet qu'on n'a pas envie de voir venir dans sa vie. Ça a été un pari que le directeur de la station a pris quand il a entendu le pilote du premier épisode, celui dont tu parles, hein, le bateau coule. Il a dit banco tout de suite, parce que ça a immédiatement parlé à l'homme de radio qu'il est. Il a compris que c'était un objet sonore et radiophonique unique. Et ça a touché les auditeurs, parce que ce qu'elle raconte, c'est son histoire. Elle ne cherche pas d'autres exemples. Mais elle l'explore avec son talent, qui est un talent de conteuse. Elle a toujours eu ce talent, Clémentine. Elle savait raconter et se raconter. Il faut savoir qu'en entretien, comme elle disait, elle déchirait en permanence. Ça n'a pas empêché qu'elle a eu un peu de mal à se faire embaucher, parce que le système de Radio France est ainsi fait, que les jeunes journalistes connaissent quelques galères. Mais à chaque fois, elle impressionnait ses interlocuteurs. Quand elle racontait ses reportages, c'était aussi, elle prenait son temps, elle savait raconter tout ce qui se passait autour d'elle, et elle savait exprimer ce qu'elle ressentait, et ça ne date pas de sa maladie. Donc elle avait ce talent naturel, inné, Clémentine, et ça lui a permis de faire de ce récit quelque chose qui a été droit au cœur des gens, d'abord parce qu'il a mis des mots sur la maladie pour ceux qui étaient concernés, que ce soit des proches ou des malades, et puis parce que c'est une histoire universelle d'une jeune femme face à la mort. La littérature en est pleine. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'exemple de La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas, mais c'est un thème qui nous touche tous et qui fait appel, au-delà même du cas de la maladie, à des idées, des choses qu'on a dans la tête qui sont extrêmement profondes.
Et dans sa lutte, tu étais à ses côtés, et en étant son compagnon et en vivant cette épreuve, toi aussi tu t'es retrouvé à devenir ce que l'on appelle un proche aidant. Est-ce que dans ton histoire de vie à toi, le cancer c'était quelque chose que tu avais eu à connaître, ou cela a été, tu allais de découverte en découverte aux côtés de Clémentine?
Alors j'avais eu une première expérience avec le cancer qui était en 2020, le cancer du cerveau d'un ami très proche, un glioblastome, ce que les médecins appellent, surnomment Terminator, et qui est mort en 2021, fin 2021, pratiquement presque 2 ans jour pour jour avant Clémentine. Et c'était un ami qui avait mon âge, la quarantaine d'années, donc on était très proches depuis longtemps. Donc ça a été une première expérience de cette maladie, mais pas à ce point, pas avec ce degré de proximité. Là, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai plongé avec elle, même si moi, je, évidemment, je n'étais pas malade, je ne ressentais pas les souffrances physiques, mais l'image que j'ai dans la tête, c'est une patrouille, c'est deux avions qui volent en formation. Clémentine, elle était au cœur du nuage d'orage, elle se prenait la foudre et la grêle. Et moi, chaque fois qu'elle tombait, j'avais l'impression de tomber, j'étais à l'extérieur, au-dessus d'elle, mais j'avais l'impression de à chaque fois de voler à la même altitude. Parfois, quand elle remontait pour sortir du nuage, moi, je ne poussais pas assez vite et quelquefois, j'ai failli me la prendre. Mais en tout cas, quand Clémentine n'allait pas bien, moi, j'allais pas bien non plus. Mais c'était extrêmement intime.
Je t'ai posé cette question car Clémentine témoignait avec force des à côté, des soins de son rapport aux autres, tu le disais, son rapport à la vie, aux choses qui ont profondément aussi évolué pour elle. Et j'imagine, donc, tu le dis aussi autour d'elle, pour ses proches, sa famille, ses amis, son mari. Les patients et leurs proches peuvent avoir besoin d'un soutien qui dépasse évidemment les soins. Comment tu l'as perçu ce... Est-ce que vous vous êtes senti isolé au-delà de l'amour que les uns et les autres vous aviez l'un pour l'autre et la famille? Est-ce que vous vous êtes senti isolé en dehors de la sphère médicale?
Alors, oui et non. C'est-à-dire non, parce que on a eu beaucoup de chance avec Clémentine et d'avoir des amis, des collègues qui ont toujours été extrêmement proches, qui ont vécu vraiment cette maladie par procuration avec nous, puisque Clémentine et moi, on était collègues, elle connaissait beaucoup de monde au sein du réseau Radio France, moi également. Donc, il y a eu une véritable solidarité, même identification, et sa mort a beaucoup marqué la radio, les collègues. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu tous ces hommages. Ils ont toujours été là, toujours été proches. On s'est toujours sentis, on les a sentis toujours à côté. La famille, évidemment, ses parents, n'en parlons pas. Ils étaient complètement avec moi hein, dans ce quatuor qu'on formait avec Clémentine. Donc, de ce point de vue-là, on a eu beaucoup de chance. Après, quel que soit le degré de proximité, il y a toujours une frontière que l'autre ne peut pas franchir. Il y a une frontière que moi, je ne pouvais pas franchir. En allant vers Clémentine, il y avait des choses qu'elle ne disait pas, qu'elle ressentait, et que moi je ne ressentais pas, et sur laquelle je ne pouvais pas la rejoindre. C'est pourquoi quelquefois, parce que la relation, encore une fois, reste une relation humaine. Quelquefois, il est arrivé qu'on se comprenne pas, qu'on n'ait pas les mêmes visions des choses à des moments identiques. Donc, il y a toujours un degré d'isolement. Et nous, vis-à-vis de l'extérieur, c'est une vie qui est difficile à toucher du doigt. Son podcast là a levé le voile là-dessus sur ce que c'était. Mais avant, personne ne peut comprendre ce que c'est le quotidien, tout ce qu'il implique, tout ce qui se passe. Et encore, ce podcast, il est parfois en dessous de la réalité, de ces moments. De guerre de son corps contre elle-même et de moments terribles. Je pense à voilà sa première hospitalisation, à beaucoup de scènes qui ont émaillé ces mois difficiles et qu'on a vécu tous les deux.
C'est beaucoup d'hospitalisation, beaucoup de soins, des moments très douloureux au sens physique, évidemment, voire quasi permanent. La douleur a été présente quasiment tout au long de sa maladie.
Quasiment, presque non-stop, avec une interruption au début de sa thérapie ciblée, mais ça a repris à ce moment à Nantes. Et en fait, il s'est avéré que ses douleurs étaient liées à la thérapie ciblée.
Alors, tu dis thérapie ciblée, Clémentine a pu bénéficier de traitements, mais pas du seul traitement curatif connu à ce jour, à savoir l'opération de la tumeur. C'est la situation de son cancer qui ne le permettait pas, comme à peu près deux tiers des personnes touchées par le cholangiocarcinome. La question des traitements, de l'accès aux traitements, L'a-t-elle perçue comme une patiente, évidemment, d'abord, mais aussi comme une journaliste? Parce que quand on écoute son podcast, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de recherches sur les possibilités. Comment elle abordait les perspectives de traitement?
Alors, c'est via l'équipe médicale de Paul Brousse qu'elle les a apportées, parce que c'est eux qui ont apporté ces possibilités de traitement, qui ont fait ces propositions et ce suivi. Nous, on ne connaissait pas les traitements. On ne savait pas comment on pouvait espérer, sinon soigner, du moins ralentir ou en tout cas contenir un cancer. L'objectif était et c'est l'objectif de beaucoup de traitements du cancer maintenant, de rendre ce cancer une maladie chronique. Ils appellent ça chronicisé, c'est un peu un barbarisme, mais c'est en faire une maladie chronique, évidemment lourde, mais qui puisse être gérée, c'est-à-dire mise sous contrôle par les traitements.
Parmi ces traitements, elle a bénéficié donc de traitements, tu vas nous en dire un peu plus, évidemment. Ça lui a permis d'avoir quel type de vie quotidienne pendant cette période de 18 mois?
Alors, les premiers traitements, une vie quotidienne très difficile. C'était des chimiothérapies associées à une immunothérapie. C'est un traitement qui est tout nouveau, enfin qui a été reconnu en 2022 seulement. Donc, il était connu avant, mais il venait d'être officiellement reconnu comme une des lignes de traitement du cholangiocarcinome. C'est le brouillard. Alors, les premières chimios se passent relativement bien. C'est à partir de la troisième où les choses ont commencé à se gâter avec une fatigue extrême, presque des étourdissements, ce qu'on appelle le brouillard de chimio, beaucoup de vomissements également, une difficulté à avaler, à manger. Il fallait chercher ce qu'elle pouvait prendre, chercher des anti-vomitifs. Alors moi, comme je fais un peu de bateau, ces nausées-là, c'est des choses que je connaissais un peu, donc je lui ai fait prendre du gingembre confit pour essayer de couper la nausée, ce qui a sans doute rajouté à ses épreuves plutôt qu'autre chose. Donc, on a essayé de trouver comme ça des traitements, mais ces vomissements se sont installés en fait, ils sont devenus des habitudes corporelles. Et il a fallu qu'elle consulte un hypnothérapeute après la chimiothérapie, alors qu'elle avait encore ces conséquences-là, pour que ces vomissements se cessent enfin. Et puis, il y a eu la thérapie ciblée, donc à partir de février 2023. Et là, ça a été ce qu'elle a appelé sa deuxième chance avec la vie. C'est-à-dire que cette thérapie, c'était lourd, hein, c'était des cachets à prendre, beaucoup de cachets. C'était dans ce pilulier qu'elle décrit dans son podcast. Clémentine était quelqu'un d'extrêmement organisé, donc qui ratait jamais rien, qui avait beaucoup de mémoire et qui savait maîtriser tout ça. Et moyennant ces traitements, elle pouvait avoir quasiment une vie normale. Elle pouvait sortir, elle pouvait partir en voyage. D'ailleurs, on est partis tous les deux en voyage en Sicile. Jusqu'au dernier moment, quasiment, on n'était pas sûr parce qu'elle était encore hospitalisée. Donc, elle est sortie de l'hôpital et on a pris l'avion quasiment le lendemain ou le surlendemain, je sais plus. Et pendant tout ce voyage, elle n'a rien ressenti, il n'y avait plus de douleur. Et on a vu surtout les métastases dans son cuir chevelu. Elles ont disparu en 15 jours, elles se sont volatilisées. Et ça, c'était merveilleux. Jusqu'au mois de mai, fin mai, début juin, où là, elle a commencé à avoir des douleurs abdominales qui ont été de plus en plus intenses et qui se sont avérées être une conséquence de cette thérapie, qui en plus commençait à perdre le contrôle sur les tumeurs elles-mêmes.
Alors, ce sont des traitements assez récents, mais les progrès sont considérables. C'est grâce à la recherche, on va en parler tout au long de la suite de cet épisode. Mais malheureusement, à un moment donné, son médecin a dû lui proposer la fin de ces traitements-là. C'était donc le 28 novembre 2023. Elle le raconte elle-même, mais est-ce que tu peux nous dire quelle a été sa réaction?
Le médecin est passé la voir et ils ont parlé tous les deux. C'est un constat qu'ils ont partagé. Ça n'a pas été une annonce de la part du professeur Hamel. Ils ont discuté tous les deux et ils sont arrivés à la même conclusion. Clémentine se doutait depuis quelques semaines que le cancer avait pris trop d'avance et elle se demandait si elle avait le droit de lâcher la rampe. Et elle s'apercevait que, comme elle le disait elle-même, hein, je la cite, que là, de toute façon, la rampe était devenue hors d'atteinte. Mais elle se sentait se soigner, c'est avoir une pression, parce que c'est entreprendre une démarche, et cette démarche, on veut qu'elle réussisse, il faut qu'elle réussisse. Il y a une pression psychologique pour que les soins fonctionnent. Et donc, Clémentine, elle était soumise à ça. Et à chaque fois, à chaque échec, elle le vivait aussi difficilement, parce que difficilement physiquement, parce que ses soins, ils sont lourds, c'est des opérations, par exemple, à subir, pour poser des prothèses biliaires, en l'occurrence, c'est des chimios, donc les conséquences sont incontrôlables, parfois, enfin, en tout cas imprévisibles, ça a été le cas, ou ne marchent pas, comme ça a été le cas de la toute dernière chimio. Donc il y a une angoisse en fait, un stress de ces traitements. Et il y a un moment où le chemin faisant, elle se rapproche de cette fin. Et donc quand le professeur a quitté la chambre, il y a eu de sa part un sentiment de soulagement parce qu'enfin elle était autorisée à lâcher, à ne plus montrer ce visage tout le temps de battante, même si elle refusait le mot. C'est quand même ce qu'on doit être quand on a des traitements, parce qu'il faut que ça marche, on veut que ça marche, l'entourage veut que ça marche, moi le premier, et moi surtout qui me suis toujours battu pour ça. Et elle s'est sentie soulagée parce que c'était un poids qui lui était retiré, elle avait le droit de se laisser aller. Et moi, ce soulagement m'a fait énormément de mal, parce que voir une jeune femme de 31 ans soulagée parce qu'on lui dit qu'elle va mourir, ça vraiment, ça me reste là. C'est juste impossible. C'est impossible.
C'est impossible, et c'est un sentiment de révolte que tu es en train de transformer. On va le détailler. Que tu es en train de transformer. Alors, il y a déjà beaucoup d'accomplissements avec une cagnotte qui ne cesse de grandir, que tu es en train de transformer. J'ai envie de dire, de donner un sens à tout cela. Il s'est passé aussi en un peu moins d'un mois, je pense, entre l'arrêt des traitements spécifiques au cancer et sa disparition. Il s'est passé énormément de choses qu'elle raconte à ses auditeurs, des choses difficiles, mais aussi des choses magnifiques, intenses, et notamment où vous êtes marié à l'hôpital.
C'était avant. Ça, c'était au mois d'octobre. Début octobre, c'est après la chimiothérapie qui a fait suite à l'arrêt de sa thérapie ciblée. Elle a fait une réaction cardiaque, donc qui finalement n'était sans doute pas liée ou pas complètement liée à la chimiothérapie, mais c'est ce qu'on appelle un syndrome des cœurs brisés en français, qui porte médicalement le nom japonais parce que ce sont les Japonais qui ont mis en évidence ce symptôme, qui s'appelle Takotsubo. C'est le nom d'un engin de pêche. C'est une amphore qui sert à attraper des poulpes parce que le cœur prend cette forme un peu allongée. C'est lié donc à un choc psychologique a priori très important. Et dans son podcast, longtemps avec ses parents, on n'a pas vraiment compris ce qui s'était passé et pourquoi. Et dans son podcast qu'on a écouté, elle nous a donné cette clé qu'elle avait gardée pour elle. C'était l'arrêt de la thérapie ciblée et la fin de cette nouvelle vie, de cette chance, nouvelle chance avec la vie. On lui enlevait sa vie, à nouveau, une deuxième fois. Et ça a fait son chemin, et sans doute avec une conséquence du traitement, il y a eu ce qui n'est pas un arrêt cardiaque, mais un accident cardiaque très grave. Et donc, elle a été hospitalisée en urgence. Moi, je venais de la rejoindre, je l'ai vue qui commençait à s'essouffler, qui avait du mal. Les médecins de garde la nuit n'ont pas compris ce qui se passait, y compris le cardiologue de garde à Bicêtre, qui n'a rien compris. Et je dois dire qu'il a manqué de réactivité, hein, il faut le dire. Et ce n'est que le lendemain matin que la cardiologue de service de Paul Brousse a dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait encore là ?» Et elle a été emportée toute sirène hurlante à l'hôpital Henri Mondor de Créteil à l'unité de soins intensifs cardiaques. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était entre la vie et la mort. Elle était à un cheveu de son, elle ne pouvait plus parler, elle chuchotait parce que on se rend pas compte, mais le cœur, c'est ce qui nous donne la force de porter notre voix. Et quand le cœur est faible, eh bien, on peut plus porter cette voix. Donc, il fallait se pencher sur elle pour entendre. On savait pas, en la quittant le soir, si elle serait toujours vivante le lendemain. Et elle a vu la mort de près. Et la question s'est posée de savoir si elle voulait être réanimée, si jamais son cœur s'arrêtait. Et là, la réanimation cardiaque, c'est quelque chose de très lourd. On vous met des gros tuyaux dans les veines, on vous immobilise. Normalement, on vous endort. Et là, les médecins ont dit à Clémentine, on pourra pas vous endormir si vous êtes trop faible psychologiquement et physiquement. Donc, elle ne pouvait pas, elle n'était pas en mesure de répondre à cette question. Et c'est la raison pour laquelle les médecins ont fait appel à nous, à, en l'occurrence, sa maman qui était arrivée et moi. On a eu une grande réunion avec l'ensemble de son équipe médicale, y compris l'équipe de Paul Brousse qui est venue exprès. Et tous, les uns après les autres, nous ont considérés comme des égaux et nous ont donné leur opinion, sans fard, franche, en nous laissant la décision entre nos mains, mais en nous donnant toutes les informations qui était possible. Donc, évidemment, ce qui en découlait, c'est que la mettre en réanimation, c'était la tuer plus sûrement qu'autre chose. Et donc, l'option a été de laisser faire le médicament qu'il lui avait donné et la nature, en espérant que ce ne soit pas une toxicité liée à la chimiothérapie, auquel cas elle n'avait aucune chance. À la fin de ce tour de table, moi, je me suis tourné vers sa psychologue qui n'avait rien dit et je lui ai dit, ben, vous, quelle est votre opinion? Et elle m'a dit, il va falloir que vous l'entouriez. Et elle m'a regardé, elle a eu ce signe de tête comme ça, en appuyant son propos. Elle m'a dit, surtout vous. Et là, j'ai compris que, comme je le disais, c'était pas le moment de jouer au chat sauvage, que Clémentine, il fallait la chouchouter, c'était comme une princesse. Et quand je suis retourné dans la chambre, je me suis penché vers elle, parce que je lui ai demandé, ben, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut lui dire à ton petit cœur pour qu'il reparte. Et là, elle a eu ce grand sourire, son grand sourire, son immense sourire à Clémentine, qui une des choses qui m'avait fait chavirer dès le premier instant. Elle m'a dit que tu veux m'épouser. Et là, ça a été la deuxième décision que Clémentine m'a poussé à prendre en quelques secondes. Moi, qui n'étais pas intéressé même par l'idée de mariage, je lui ai dit oui tout de suite.
Tu ne peux pas t'attendre à ça, surtout aussi à ce moment-là.
Non, je ne pensais pas qu'elle avait autant de suite dans les idées. Elle m'en avait parlé, bien sûr, bien avant, mais bien avant sa maladie, c'était quelque chose qu'elle voulait, qui elle lui plaisait beaucoup. Et voilà, et donc elle m'a fait changer de regard sur la puissance de cet engagement. Quel mariage.
Et ça lui a donné, on aime à le penser, ça lui a donné de la force pour affronter la suite.
Bah, j'ai la faiblesse de penser, mais beaucoup avec moi, que ce mariage a été ce qui a une résurrection pour elle. Et que ça lui a donné... ça l'a suffisamment inondé de bonheur pour que son cœur trouve la force petit à petit de repartir. On a eu un mariage d'urgence, donc normalement qui est conditionné à la proximité d'un risque de décès très proche. Et il s'est trouvé que dans les jours qui ont suivi, Clémentine a réussi à reprendre le dessus et j'espère que ça a été un tel bonheur que ça lui a donné un des plus beaux moments de sa vie.
Et c'est dans ces conditions, entouré de beaucoup d'amour et toujours aussi de nombreux soins, on comprend quand même réguliers, répétés. On le disait tout à l'heure qu'à un moment donné, la question de l'arrêt, de la fin des traitements s'est posée, la fin des traitements du cancer en lui-même. On a parlé de cette notion de soulagement que tu as évoqué et de ce sentiment de révolte que moi j'ai entendu dans ta voix. Ça t'a donné, je pense, un élan important pour aborder la suite. Cette révolte, c'est important pour toi, cette colère?
Oui, il y a un côté, c'est un peu préhistorique, hein, ce que je vais dire, désolé, mais il y a un côté vendetta, oui, contre ce cancer. Il a tué Clémentine, moi je veux sa peau, tout simplement, aussi bêtement et primitivement que ça. Et donc dès avant son décès, j'ai eu cette envie de construire quelque chose qui allait au-delà, entre guillemets, de simples dons, ce qui sont jamais simples. C'est toujours un geste important, mais c'est ce qu'avait demandé Clémentine. Elle voulait pas de fleurs à son enterrement et des dons. Donc, on a quand même évidemment eu des fleurs à son enterrement parce que pour nous, sinon, ça aurait été un peu trop, enfin ça l'était déjà trop, mais là c'était insupportable. Et en termes de dons, bah le jour de son enterrement, on a lancé cette cagnotte et j'en avais parlé avec le professeur Hamel en lui demandant ce qu'on pouvait faire et on en a discuté tous les deux parce que j'étais allé le voir la semaine précédente sa mort en disant en gros qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir en arrière, est-ce qu'on peut revenir en arrière, parce que même si moi je honnêtement sur toute cette dernière période je me rendais pas compte, il y a eu des portes de coups de feu qui se sont fermées dans mon cerveau et je me rendais pas totalement compte de ce qui était en train de se passer, sinon je me serais effondré en fait et je n'aurais pas pu, je pense, être un soutien, ou en tout cas je l'aurais inquiété plus encore qu'elle ne l'était. Et je ne voulais pas lui montrer ce désarroi que parfois j'ai ressenti. Quand je ressentais les larmes monter, j'allais me cacher dans l'escalier pour pleurer. Parce que j'avais peur que ça l'inquiète encore plus. Mais peut-être que j'ai eu tort et peut-être que j'aurais dû aussi lui montrer cette peine. Mais bon...
Tu as parlé au professeur Hamel dans la semaine qui précédait sa disparition, c'était le 23 décembre 2023 et tu avais déjà donc en tête, tu nous disais de vouloir faire quelque chose pour revenir en arrière, mais je comprends aussi déjà cette notion de vouloir faire la peau à ce cancer. Tu as ouvert une cagnotte, tu le disais, au moment où on se parle, cette cagnotte a déjà dépassé les 80 000 euros et on voit que vous n'êtes pas seul, qu'on voit la puissance et l'impact de cette démarche, car plus de 1700 personnes ont déjà donné. Je vous invite à aller regarder cette cagnotte, même si vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas y contribuer, parce qu'il y a aussi énormément de témoignages dans la partie des commentaires et on perçoit que ce moment très difficile que chacun a vécu ensemble dans votre famille, dans votre couple, a aussi été partagé, bien sûr, au-delà, mais on comprend qu'il faut aller plus loin, qu'il faut donner un sens. Et ce sont mes mots, je ne sais pas si ce sont les tiens. Toi, tu parlais de vendetta, mais poursuivre cet engagement. Quels sont les objectifs que tu t'es donné en voulant donc créer le fonds Clémentine Vergniaud contre le cholangiocarcinome, ou plutôt dis-nous l'objectif ou les deux principaux objectifs que tu lui destines à ce fonds?
Alors au départ, on savait pas trop. Moi, ce que je voulais, c'était réunir des fonds importants pour la recherche et financer l'équivalent d'une année de recherche. Puis le professeur nous a expliqué qu'on pouvait financer une thèse et que c'était 130 000 euros. Donc on s'est fixé finalement cet objectif après en avoir discuté. Et la réflexion s'est poursuivie avec le professeur Nozillet, avec aussi des responsables d'une association de patients qui s'appelle Espoir Pancréas, et qui est tourné vers le cancer du pancréas, parce que la femme du président est décédée de cette maladie, qui est une association qui a de l'expérience, qui a déjà 400 membres, qui s'est déjà tournée vers la sphère médicale. Donc, petit à petit, l'organisation que prendra cette espèce de trépied, parce qu'un trépied, c'est solide, s'est dessinée et aujourd'hui je pense qu'elle arrive à une phase de maturation. C'est-à-dire que on va avoir en parallèle deux associations qui vont agir sur des terrains différents, qui vont lutter contre le cholangiocarcinome. La première, c'est l'association médicale de chercheurs qui s'appelle ACABI, qui a pour but de coordonner les recherches contre le cholangiocarcinome. Il y en a relativement peu, c'est un cancer rare, hein, mais c'est un cancer, un voire le seul cancer dont la mortalité, la létalité est en augmentation sur les patients et l'incidence augmente également sans qu'on puisse l'expliquer totalement. Donc, ces chercheurs vont coordonner les recherches, l'aspect recherche médicale. Et puis, à côté, il y a tout un travail d'information, de prévention, de lobbying aussi, qui est là le travail d'une association de patients. Et en France, sur le cholangiocarcinome, il n'en existe pas. Il y en a des très actives aux États-Unis, en Angleterre, mais en France, il n'y en a pas. Et donc, Espoir Pancréas va créer, sans mauvais jeu de mots, pardon, une branche voie biliaire qui va faire ce travail de sensibilisation auprès du public et auprès des médecins, notamment des généralistes qui sont la porte d'entrée des malades. C'est le premier contact des malades avec la médecine. Et c'est crucial parce que, évidemment, c'est un cancer qui doit être détecté le plus tôt possible pour avoir une chance d'être opérable, parce qu'avoir une chance d'être opérable, c'est l'unique chance de survie à l'heure actuelle. Il y a quelques malades qui ont des très bons résultats avec les traitements, mais c'est statistiquement peu important, presque nul. Donc, il faut pouvoir opérer. Donc, ces deux associations, elles vont fonctionner parallèlement. Et le troisième pied du trépied, ben, ça va être ce fonds de dotation qui va aller chercher des financements pour irriguer ces deux branches d'action, l'action médicale, action de prévention. Et donc, on a choisi ce format parce que de fonds de dotation, parce que juridiquement, ça permet des dons défiscalisés. Et c'est comme ça, c'est la nature des sociétés humaines. Les particuliers ne demandent rien en général pour donner, c'est ce qui a lieu pour la cagnotte, mais quand on veut approcher des structures, des entreprises, des fondations, il faut leur permettre de défiscaliser leurs dons.
Oui, soit dit au passage, c'est aussi une forme de soutien de la puissance publique, puisque c'est des subventions au moins qui sont données, mais c'est directement de la générosité qui est captée par des gens qui agissent, des gens qui font... Oui.
La puissance publique, elle a déjà commencé d'ailleurs ce soutien à travers l'attention que j'ai notée que porte la préfecture, en l'occurrence des Hauts-de-Seine, à l'examen du dossier qui m'a beaucoup touché.
On va parler de tout ça dans un instant, notamment donc de ce fonds Clémentine Vergniaud contre le cholangiocarcinome. Un fonds, pour amorcer ce fonds, il faut de l'argent. Il y a déjà plus de 80 000 euros, mais il en faut beaucoup, beaucoup plus. On espère que cette conversation va y contribuer à sa manière. On va détailler tes objectifs dans une seconde partie. Grégoire, je te propose qu'on marque une petite pause dans cet entretien et qu'on écoute la conversation que j'ai eue, et tu l'as citée, avec une voix qui compte beaucoup... le sujet de la recherche. Elle est professeure de médecine, elle est chercheure, elle travaille à l'Institut Curie et elle est donc la présidente de l'association ACABI. Elle s'appelle Cindy Neusillet. Je lui ai demandé de nous apporter un éclairage scientifique sur les enjeux qui entourent la recherche. J'ai posé des questions concrètes, des questions simples. Je te propose qu'on se retrouve juste après. Bonjour Cindy Neusillet.
Bonjour Simon.
Tu es professeure de médecine et hépato-gastro-entérologue, responsable oncologie à l'Institut Curie. Tu es une spécialiste des cancers digestifs. Tu es la présidente aussi de l'association ACABI. Cela veut dire Association pour l'étude des cancers et affections des voies biliaires. C'est une structure fondée en 2018 qui réunit des médecins, cliniciens, des chercheurs qui agissent tous sur la thématique des voies biliaires. J'ai voulu parler avec toi dans cet épisode dans le but de bien comprendre l'importance de la recherche médicale. afin de combattre le cholangiocarcinome. Tu nous diras ce qu'est concrètement ce cancer des voies biliaires, quelles sont les pistes de recherche donc et les traitements qui existent. Mais d'abord, je crois pouvoir dire que comme moi, une partie très importante de nos auditeurs a entendu parler pour la première fois du cholangiocarcinome grâce à un podcast, au podcast très touchant de Clémentine Vergniaud, un podcast proposé par France Info, réalisé avec Samuel Aslanov, qui a obtenu un large écho auprès du public francophone depuis sa sortie. C'était en juin 2023. Tu as écouté son histoire, deux fois même, tu viens de me dire, juste avant qu'on commence. Ce podcast s'appelle « Ma vie face au cancer », le journal de Clémentine. C'est un témoignage poignant, très informatif aussi. Clémentine voulait que cette démarche, qui est à la fois intime, mais aussi très journalistique, soit utile. Cela a-t-il touché aussi le monde médical ?
Oui, tout à fait. Je pense que l'objectif qu'elle avait de laisser une trace par ce podcast a tout à fait été atteint. Elle a permis de mettre en lumière ce cancer dont on ne parle pas beaucoup, en effet, puisque c'est un cancer rare, mais qui touche de plus en plus de personnes. Et par ailleurs, dans son témoignage, elle a su retracer les différentes étapes de sa maladie, aussi bien le diagnostic, la manière dont elle a supporté les différents types de traitements, son rapport au pronostic de la maladie, l'annonce aussi bien initiale que l'annonce de la fin des traitements. Et du coup, ce témoignage, il est à la fois très précieux pour les autres patients et pour leurs accompagnants, leurs aidants, mais aussi pour la communauté médicale et en particulier les jeunes médecins, parce que ça donne un autre regard sur la manière dont l'information est reçue et sur le poids des mots vis-à-vis de nos patients.
Alors en effet, tu appartiens à cette communauté médicale. Qu'est-ce qui t'a conduit à travailler dans ce domaine et t'orienter vers la recherche sur les cancers digestifs ?
Alors, ouais, je m'intéresse en effet plus particulièrement au cancer des voies biliaires et au cancer du pancréas. Et ces deux cancers qui ont en commun d'être des cancers qui font peur souvent parce qu'ils ont une mauvaise réputation du fait de leur pronostic. Et je pense qu'il n'y a jamais des combats perdus d'avance. Et que ces cancers qui sont un peu des Everest de la recherche sont d'autant plus motivants pour qu'on se mobilise autour d'eux et nécessitent vraiment qu'il y ait une collaboration entre les cliniciens et les chercheurs fondamentaux. Et c'est ce qui fait la richesse finalement de ces champs de recherche, c'est qu'il y a une vraie interaction entre les cliniciens et les chercheurs. Et donc c'est la raison pour laquelle ce sont deux thématiques qui m'intéressent particulièrement et sur lesquelles la recherche est particulièrement importante.
Alors la recherche est importante, j'employais le mot depuis le début de ce podcast, le nom de la maladie dont on parle, cholangiocarcinome. On dit beaucoup voie biliaire, mais concrètement dans le corps, où ça se situe les voies biliaires ?
Alors, les voies biliaires, ce sont des canaux qui partent du foie, donc d'abord sous une taille toute petite et puis qui grossissent au fur et à mesure et qui se ramifient, un peu comme un arbre finalement. Et donc, cet arbre converge vers un tronc, qui est la voie biliaire principale, qui rejoint le tube digestif au niveau du tout début de l'intestin grêle, juste après l'estomac. Et ces canaux biliaires, leur objectif, c'est de conduire la bile qui est produite par le foie et qui a un rôle notamment dans la digestion des aliments.
Le cholangiocarcinome, c'est un cancer rare, c'est-à-dire qu'il ne touche qu'une faible proportion de la population, mais aussi une faible proportion en comparaison à d'autres cancers. Je lisais que par cancer rare, on entend généralement des cancers dont l'incidence est inférieure à 6 cas pour 100 000 personnes. Dans le cas du cholangiocarcinome, c'est encore beaucoup moins. De 1 à 2 cas pour 100 000, si j'ai bien lu.
C'est ça, on est autour en fait de 2 000 à 4 000 cas chaque année en France de ce type de cancer. Alors en sachant que ce n'est pas le cas partout dans le monde, par exemple dans les régions d'Asie, il y a l'Asie du Sud-Est, ce sont des maladies qui sont beaucoup plus fréquentes parce qu'il existe des formes qui sont liées à des parasites qui peuvent infecter le foie. En Europe, ces parasites ne sont pas fréquents, donc on a d'autres facteurs de risque de ce cancer qui sont retrouvés chez certains patients. Mais donc, ça explique qu'on ait beaucoup moins de cas qui soient observés. Et en effet, ça classe cette tumeur dans les pays européens comme étant une tumeur rare.
Lorsqu'on entend le mot cancer, lorsqu'on le prononce, vient souvent une image, celle d'une course contre la montre. Est-ce que cette image est adaptée dans le cas précis du cholangiocarcinome, alors dans l'intérêt des patients, mais aussi dans l'intérêt de la recherche?
Alors oui, tout à fait. Il y a une urgence, une indication à ne pas perdre de temps dans la prise en charge de ces patients, à la fois dans la partie initiale du diagnostic, où il peut y avoir une part d'errance, du fait que cette tumeur est rare, elle n'est pas forcément bien connue des médecins, par exemple des médecins généralistes, qui vont en voir très très peu au cours de leur carrière. Et puis par ailleurs, elle a des symptômes qui peuvent être trompeurs ou tardifs dans l'évolution de la maladie, donc ce qui n'aide pas à pouvoir faire un diagnostic précoce. En plus, on n'a pas de stratégie de dépistage pour ce cancer, à la différence d'autres cancers, comme les cancers du côlon ou du sein, par exemple, pour lesquels on a des examens qui peuvent être faits pour détecter la maladie à un stade précoce chez les populations à risque. Là, ça n'existe pas pour ce type de cancer. Et puis après, derrière, une fois que la maladie est détectée, il y a une urgence à prendre les bonnes décisions et il y a notamment un enjeu à avoir accès à une certaine expertise pour examiner les biopsies, pour examiner les examens de radiologie des patients, pour prendre les bonnes décisions en termes de drainage des voies biliaires, pour avoir l'avis d'un chirurgien, par exemple. Donc, du coup, ça demande une logistique et une coordination de différents acteurs. Et afin de ne pas perdre de temps dans l'initiation du traitement, parce que, en effet, c'est des maladies qui peuvent aller assez vite et avoir un retentissement, que ce soit sur les voies biliaires ou sur l'état général des patients, qui peut faire que si on arrive trop tard, eh bien, on ne peut plus administrer de traitement. Donc, d'où une urgence vraiment dans la prise en charge à ces différentes étapes.
Cette urgence pour administrer le traitement, alors il faut le dire, le seul traitement curatif disponible à ce jour, c'est la chirurgie. Le but est de retirer les cellules cancéreuses, mais ce n'est pas possible dans tous les cas. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Alors, tout à fait. Le seul traitement qui peut guérir ce type de tumeur, c'est la chirurgie, parce qu'elle permet de retirer anatomiquement la tumeur. Très souvent, en fait, on sait que malgré la chirurgie, il peut y avoir des récidives de la maladie derrière. Donc, c'est pour ça qu'après l'opération, on propose toujours une chimiothérapie en complément. Donc, même si la tumeur a été complètement retirée, pour traiter d'éventuelles cellules microscopiques qui resteraient. La difficulté que l'on a, c'est que, comme on le disait, les symptômes étant tardifs dans cette maladie, bien, dans plus de 2/3 des cas, elle est diagnostiquée à un stade où on ne peut plus faire de chirurgie, soit parce que la maladie est trop évoluée localement, et donc comme elle est située, on le disait, les voies biliaires partent du foie, et donc en fait on ne peut pas retirer un volume de foie trop important, donc la limite vient dans ces cas-là de l'envahissement du foie et des différentes structures attenantes, ou alors du fait d'une extension à distance. C'est-à-dire que les patients qui ont des métastases, dans ces cas-là, on sait que la chirurgie n'a pas d'utilité parce qu'elle ne permettrait pas de retirer l'ensemble des sites où il existe des cellules tumorales. Et donc, ça peut être deux des raisons pour lesquelles la chirurgie peut ne pas être possible.
Et dans ce cas, qui concerne un grand nombre de patients, même une majorité de patients atteints par ce cancer, les patients peuvent tout de même se voir proposer d'autres traitements que l'on appelle des traitements palliatifs. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce mot et quels sont leurs objectifs ?
Alors, en effet, il y a beaucoup d'idées reçues sur le terme de palliatif. En fait, ce n'est pas parce que le traitement est palliatif que ça veut dire qu'il n'est pas efficace ou qu'il n'aurait qu'un objectif de confort. Le traitement est dit palliatif parce qu'il ne peut pas permettre de guérir la maladie. Donc, c'est par opposition à curatif. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne soit pas actif. Et en l'occurrence, concernant ces traitements pour ce qu'on appelle les maladies avancées, c'est-à-dire les maladies qui ne sont pas accessibles à une chirurgie, le cancer des voies biliaires fait partie des cancers sur lesquels il y a eu le plus d'innovation au cours de ces dernières années. Donc, c'est pour ça que c'est aussi une source d'espoir, puisqu'il a bénéficié à la fois de la révolution de l'immunothérapie, qui maintenant fait partie des traitements qu'on administre dès la première ligne de chimiothérapie, donc le traitement de première intention Et combiné avec de l'immunothérapie, il a été montré que c'était plus efficace que de faire la chimiothérapie seule, mais aussi elle a bénéficié d'un autre progrès qui est celui des thérapies ciblées, de la médecine personnalisée, à savoir qu'en fait, avant, on considérait que c'était un cancer homogène, les cancers des voies biliaires, et maintenant on a compris que c'était en fait une multitude de sous-types de cancers qui chacun ont des spécificités génétiques, et dans 40% des cas, ces spécificités génétiques peuvent permettre d'utiliser des thérapies ciblées parce que la tumeur utilise une mutation comme élément pour assurer sa survie. Et donc, c'est comme le dit Clémentine dans son podcast, à la fois la plus grande force de la cellule tumorale, mais aussi son tendon d'Achille. Et donc, par les thérapies ciblées, on peut cibler ces altérations. Et donc, on a vraiment eu des progrès. Et maintenant, toute la question est de permettre à l'ensemble des patients d'accéder à ces innovations. Et donc, il y a un vrai enjeu de communication auprès des soignants, auprès des patients, par rapport à ces nouveaux traitements, justement.
On va détailler tout ça dans un instant. Alors, thérapie génique, c'est pour bloquer, si je reformule un peu, c'est pour bloquer la...
Thérapie ciblée, ouais, c'est en effet, c'est pour bloquer la voie de signalisation, ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire le moteur, si on veut, de la cellule tumorale.
Et l'immunothérapie joue un rôle, j'allais dire, enfin, c'est l'image que j'en ai, en tout cas, tu vas nous expliquer si... Je le reformule bien, c'est une façon d'utiliser ses propres défenses immunitaires et de les mettre à contribution dans la lutte contre les cellules cancéreuses.
C'est ça, tout à fait. L'immunothérapie, c'est un traitement qui agit différemment du coup de la thérapie ciblée. La thérapie ciblée, elle tape directement sur la cellule tumorale. L'immunothérapie, elle agit indirectement. Elle va aller stimuler le système immunitaire pour qu'il aille reconnaître et détruire les cellules tumorales. Donc, c'est en effet deux mécanismes différents.
Tu évoquais et tu as employé le mot de progrès, ce sont des progrès considérables. Concrètement, bah, comment les définir pour les patients? Ça allonge l'espérance de vie avec la maladie?
Ça permet d'allonger l'espérance de vie des patients et aussi d'améliorer la qualité de vie parce qu'en fait, la qualité de vie des patients est impactée par la progression de la maladie, par l'augmentation de taille de la maladie. Et donc, le fait de pouvoir la contrôler le plus longtemps possible, ça donne du temps, mais aussi du temps dans de bonnes conditions.
On comprend en t'écoutant l'immense importance de la recherche et de trouver chaque jour, j'allais dire, en tout cas chaque année, des nouveaux moyens de combattre plus efficacement les maladies, et en l'occurrence le cholangiocarcinome. Quelles sont les pistes de recherche en cours? Sur quoi espérer pouvoir agir pour parvenir à offrir de meilleurs horizons aux patients?
Alors, il y a beaucoup de pistes de recherche différentes. Alors, si on veut les classer, on peut partir en fait un peu comme des poupées russes, partir d'abord de la cellule tumorale, puis de son environnement autour, et enfin arriver à l'échelle du patient. Donc, au niveau de la cellule tumorale, on a parlé de la compréhension de ces anomalies génétiques qui lui permettent de survivre. Donc, il y a déjà plusieurs thérapies ciblées qui ont été identifiées, mais il y en a de nouvelles qui sont en développement. Donc, on découvre régulièrement de nouvelles altérations et pour lesquelles il y a des inhibiteurs, des petites molécules pour les bloquer, qui sont développées et évaluées dans des essais cliniques. Ensuite, concernant le micro-environnement, c'est parce qu'en fait, la cellule tumorale, elle n'est pas toute seule dans les cancers des voies biliaires. Elle est entourée par une sorte de forteresse, de gangue fibreuse, qu'on appelle le micro-environnement. Et donc, en fait, cette gangue fibreuse, elle est formée par des fibroblastes, par des cellules inflammatoires. Et en comprenant mieux la manière dont la cellule tumorale dialogue avec son environnement autour, ça peut aussi permettre d'identifier de nouvelles pistes thérapeutiques. Donc, c'est aussi un champ de la recherche. C'est aussi un champ pour essayer de comprendre quels sont les patients qui profitent le plus de l'immunothérapie. Parce qu'en fait, quand on regarde les études qui ont évalué l'immunothérapie, le bénéfice, il n'est pas le même chez tous les patients. On n'arrive pas bien à expliquer cette différence de bénéfice. Donc, ça pourrait permettre de mieux sélectionner les patients, de donner le bon traitement, donc plus ciblé pour les patients. Le dernier point de la poupée russe, c'était l'échelle de l'hôte, l'échelle du patient en lui-même. Et ça, c'est pour insister sur le fait qu'il y a beaucoup de recherches qui se font autour du domaine des soins de support, c'est-à-dire tout ce qui est autour des traitements spécifiques contre le cancer pour viser à faire en sorte de traiter donc les problèmes de jaunisse, de perte de poids, de fatigue, donc autour de la nutrition, de l'activité physique, et qui sont des éléments qu'il ne faut pas négliger parce qu'ils jouent un rôle très important à la fois dans la manière dont on supporte les traitements, parce que quand on est plus fragile, on fait plus de complications, donc tout ce qui va renforcer l'organisme va être positif de ce point de vue-là, et ça a aussi un rôle important tant sur la qualité de vie que sur la survie. Donc il faut voilà, prendre en compte toutes ces dimensions finalement de la maladie.
On aimait ce podcast depuis la France. Je le disais, tu travailles à l'Institut Curie, donc c'est près de Paris. Est-ce qu'on sait dire combien il y a d'équipes en France, en Europe ou dans le monde qui travaillent sur ce type de recherche?
Alors en France, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui travaillent sur le cancer des voies biliaires. Il y en a moins d'une dizaine. En effet, par rapport à d'autres cancers comme les cancers colorectaux ou les cancers du sein, c'est un territoire qui est beaucoup moins exploré. Mais de la même manière que pour le cancer du pancréas, justement, il y a une volonté d'essayer de se mettre en réseau pour mettre nos efforts en commun pour faire avancer les choses plus vite. Et c'était notre objectif quand on a créé justement l'association Acabi, de pouvoir faire se connaître entre eux, à la fois les cliniciens et les chercheurs qui travaillent sur cette thématique.
Les causes de ce type de cancer, tu le disais un peu tout à l'heure, sont mal connues, et donc il est généralement diagnostiqué à un stade avancé, ce qui en fait un cancer de mauvais pronostic. Son taux de survie à 5 ans est compris entre 20 et 50% après une opération. On se dit que l'urgence, c'est aussi de progresser peut-être sur l'identification des causes en elles-mêmes. Est-ce possible, y a-t-il là aussi des démarches entreprises?
Alors, il y a des études épidémiologiques qui s'intéressent à ces cancers, mais plus largement, en fait, au cancer digestif. Comme on le disait, il y a des formes de ces cancers liées à des parasites qu'on voit en Asie, mais qu'on ne voit pas, en fait, en Europe. Donc, en Europe, c'est d'autres facteurs de risque qui sont impliqués. Il peut y avoir certaines formes de cancer des voies biliaires qui peuvent être liées à des maladies chroniques du foie, c'est-à-dire à des cirrhoses ou des stades de pré-cirrhose. Donc en rapport avec des infections au virus de l'hépatite B, au virus de l'hépatite C, ou à des maladies du foie liées à l'obésité, par exemple. Mais la plupart des patients sont diagnostiqués avec ces cancers des voies biliaires sans avoir ces problèmes de maladies du foie sous-jacentes. Par ailleurs, il y a d'autres formes de cancers des voies biliaires qui se développent chez des gens qui ont des formes de maladies inflammatoires des voies biliaires. Donc, ce qu'on appelle des cholangites, mais qui, de la même manière, représentent une minorité des patients qu'on voit en pratique, en clinique. Et donc, ce qui fait que la grande majorité des cas, on n'identifie pas vraiment de facteurs qui expliquent le diagnostic. C'était le cas justement chez Clémentine aussi, hein, il n'y avait pas eu de facteur identifié. On sait que pour tout cancer, il y a une convergence entre des éléments de prédisposition individuelle, donc la génétique familiale, et donc qui fait qu'on peut avoir une sensibilité accrue à développer un cancer d'un individu à un autre. Et après, la rencontre avec des facteurs d'environnement. Mais ces facteurs d'environnement, ils sont pas bien connus. On sait que le surpoids, l'obésité, le tabac peuvent jouer un rôle, mais c'est des facteurs très généraux et qu'on retrouve pour plein d'autres cancers. Et donc, il y a des questions qui peuvent se poser autour d'éléments dans l'alimentation, par exemple, ou dans l'environnement qu'on n'aurait pas encore identifié. Mais c'est des choses qui sont très difficiles à démontrer parce qu'on est exposé à tellement de facteurs que pour établir la causalité entre une exposition et un cancer, ce d'autant quand ce cancer est très rare, c'est un vrai challenge d'un point de vue épidémiologique.
On va parler sur deux autres questions de la rareté aussi. Mais alors, tu évoquais Clémentine Vergniaud. Ce qui a frappé et ému aussi le grand public, c'est sa jeunesse. Elle a conduit une lutte acharnée contre cette maladie pendant 18 mois. Elle est décédée à l'âge de 31 ans. Est-ce qu'on sait dire, lorsqu'on regarde les personnes atteintes par ce cancer, s'il y a une spécificité liée à l'âge à connaître?
Alors, quand on regarde la population globale des patients atteints par ce cancer, c'est une maladie qui touche habituellement plutôt des personnes avec une médiane d'âge autour de 70 ans. Donc, c'est commun un petit peu avec les autres cancers digestifs. Mais en effet, on a aussi des formes qui touchent le sujet jeune. Ces cancers digestifs qui touchent le sujet jeune, ils font l'objet d'une d'une surveillance, on va dire, un peu accrue actuellement, parce qu'on se rend compte dans différents pays d'Europe et aux États-Unis qu'il y a une augmentation du nombre de cas de ces cancers chez les personnes de moins de 50 ans. Dans les cancers des voies biliaires, on sait qu'on peut trouver certaines anomalies génétiques dont on parlait, des cellules tumorales, peuvent être plus représentées chez les sujets jeunes que les sujets âgés dans certains cas. Mais après, on n'a pas vraiment sinon de tableau épidémiologique bien décrit de ces cancers des sujets jeunes par rapport à la population plus âgée. Simplement, la population plus âgée, on la voit moins dans les essais cliniques ou dans les données de vraie vie, du fait que elle arrive souvent avec un état général altéré au début de la prise en charge. Et que ces patients, bah, malheureusement, pour une part importante d'entre eux, ne reçoivent même pas de traitement pour leur maladie parce qu'ils sont trop fatigués au moment où ils arrivent au diagnostic. Donc, il y a aussi ce côté-là à prendre en compte, c'est-à-dire que les patients que l'on voit dans les essais cliniques ou qui reçoivent un traitement ne sont que la partie émergée de l'iceberg et qu'il y a une part importante de patients qui ne peuvent pas accéder à un traitement pour cette maladie.
Les études, la recherche médicale, c'est fondamental, nécessite des moyens financiers importants, colossaux. Alors il y en a déjà beaucoup, il y a aussi beaucoup de générosité hein, en France, mais peux-tu nous dire pourquoi les chercheurs ont-ils besoin aussi du soutien du public et comment peuvent-ils le manifester? Alors évidemment par des dons, mais je pense aussi à la parole, au fait et à la bonne information. Comment les citoyens peuvent aider les chercheurs?
Alors c'est une grande question. Bah, je pense qu'il y a cette notion de donner de la visibilité à ces cancers. Donc les initiatives comme celle du podcast de Clémentine Vergniaud bah, contribuent à donner cette visibilité. Et aussi un aspect sur lequel avec Acabie on essaye de travailler, qui est que on n'a pas d'association de patients concernés par cette maladie. Et c'est vrai que quand on échange avec les patients, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande de ce point de vue-là, parce qu'ils sont à la recherche d'informations sur leur maladie, de témoignages de personnes qui ont traversé la même chose qu'eux. Et donc, on est en train d'œuvrer pour essayer d'aider à la création de ce type de structure. Et en fait, voilà, c'est une prise de conscience finalement et une connaissance par rapport à cette maladie qui peut aider à faire avancer les choses.
Et cette meilleure connaissance, elle doit aussi, selon toi, concerner le médecin de famille, celui que l'on va voir en premier. Sont-ils assez sensibilisés à ce type de cancer?
C'est une question importante qu'on a soulevée au moment d'une réunion. On a tenu des états généraux en fait autour des voies biliaires avec l'association Acabi, et on s'est posé cette question du rôle du médecin généraliste. Comme on le disait, la maladie étant très rare, le médecin généraliste il va voir très peu de cas au cours de sa carrière. Donc on peut pas lui demander de connaître toutes les subtilités de la prise en charge, de l'expertise dont on a parlé plus tôt dans le podcast. Mais par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir lui donner des guichets finalement auprès de centres experts auxquels il puisse s'adresser s'il a une question qui est plus large que celle du diagnostic de cancer des voies biliaires, parce que c'est tellement spécifique. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir dans ce guichet une porte d'entrée qui soit une question plus large, par exemple, des perturbations du bilan du foie inexpliquées ou la découverte d'une lésion dans le foie dont on ne connaît pas encore la nature, et de pouvoir adresser dans ces cas-là le patient ou prendre contact avec l'expert très rapidement pour ne pas perdre de temps. Et donc, on se dit que le rôle du médecin généraliste, il est peut-être plus dans cette étape d'orientation, plus que dans la connaissance approfondie de la maladie, puisque ça n'aurait pas de sens en fait dans le cadre du voilà de on va dire du tuilage des soins.
Des chercheurs aux patients, des patients aux chercheurs, c'est toute une chaîne qui se mobilise, et notamment à travers cet épisode. Donc, je rappelle qu'il est possible de formuler des dons. Je vous mets toutes les informations dans la description. Je mets aussi le lien du site internet de l'association Acabi, dont tu parlais, pour les professionnels de santé qui chercheraient à rentrer en relation avec vous. Merci beaucoup d'être intervenu dans cet épisode spécial. Merci, professeur Cindy Neuzillet de l'Institut Curie et donc présidente de l'association Acabi. On va suivre avec beaucoup d'intérêt les évolutions de la recherche et les informations qui ont trait à ce cholangiocarcinome. Merci d'être passé dans cette émission.
Merci à toi d'avoir mis en lumière ce cancer aujourd'hui.
Vous écoutez la dernière partie d'un épisode spécial de Ces voix qu'il faut entendre, consacré au fond Clémentine Vergniaud contre le cholangiocarcinome, un épisode réalisé dans le cadre du podcaston dans le but de faire connaître ce combat et de tenter de lever donc des fonds supplémentaires. Grégoire Le Callot, nous te retrouvons. Nous allons parler dans un instant de ce que tu souhaites mettre en place pour donner de la voix aux patients atteints par la maladie. Mais d'abord, tu le disais tout à l'heure, la recherche a un besoin important de soutien. Nous venons de l'entendre, il reste énormément de travail à accomplir. Tu me disais, en préparant cet entretien, que tu voulais faire la peau à ce cancer. Tu viens de nous le dire tout à l'heure en exprimant la notion de vendetta. Côté soutien à la recherche, le fonds de dotation, ce fonds, cette mobilisation que tu es en train d'entreprendre, comment ça va concrètement s'opérer? C'est s'appuyer sur les meilleurs spécialistes en France?
Oui, ça, au niveau de la recherche, nous, on va faire confiance complètement à l'association Acabi. Et les fonds seront discutés, enfin, ils vont nous donner leurs besoins, détailler les programmes, et les fonds seront discutés au conseil d'administration du fonds Clémentine Vergniaud et reversés en fonction des besoins. On a déjà comme base cette cagnotte Litchi. Au départ, on voulait 15 000 euros parce que c'était le montant minimum qu'il fallait pour verser un fonds. Tu l'as dit, on est à plus de 80 000 et vraiment faut j'ai envie presque de saluer les donateurs, que presque de leur dire merci, même si merci il y a mille façons de le dire, mais je crois que s'ils ont voulu donner, c'est parce qu'ils ont eu le sentiment de recevoir de la part de Clémentine et de rentrer et de connaître Clémentine, et c'est leur réaction à ce podcast. Pour beaucoup d'entre eux qui nous le disent, de ce témoignage lumineux, qu'ils ont l'impression de connaître Clémentine. Et puis il y en a beaucoup qui ont été touchés personnellement par cette maladie. On a reçu des mails de témoignages qui nous racontent ces parcours et qui n'avaient pas de fléchage précis contre cette maladie et qui voulaient, comme moi en fait, agir spécifiquement contre le cholangiocarcinome, contre ce tueur, et ça leur donne la possibilité de le faire, d'exprimer, et ils le font, ce geste, aussi pour les personnes qui sont décédées. Donc ces fonds, ils vont être répartis en fonction des priorités d'Acabi. Une des premières, je pense, sera de fabriquer un site internet qui va nous permettre de communiquer vis-à-vis à la fois du grand public et des populations médicales, sur lequel on aura les trois structures de ce trépied dont je t'ai parlé, et avec des modules qui existent déjà, d'explication, de sensibilisation, c'est la première priorité, pour que la prévention de ce cancer passe mieux, parce que les vies que j'espère on pourra sauver, c'est d'abord ceux qui arrivent dans le parcours de la maladie et qui, en étant pris à temps, eh bien, auront plus de chances de s'en sortir. Et derrière, ben, ça augmentera le nombre de personnes qui verront ce que Clémentine souhaitait, c'est-à-dire tout simplement leur vie continuer.
Et avec ce fonds de soutien à la recherche, le but est donc de renforcer l'action de chercheurs et non pas de constituer en tant que tel une équipe de recherche.
Tout à fait. Nous, on n'a pas voulu s'isoler parce que d'abord, on ne connaissait pas ce milieu. Donc, on a voulu travailler avec ceux qui étaient impliqués depuis de longues années dans la recherche contre le cancer. Nous, on ne fait qu'arriver. Il y a énormément de structures. Les plus connues sont les grandes fondations, l'ARC, la Ligue, etc., qui se battent contre cette maladie depuis des années. Et donc, on va s'appuyer sur tous ces savoirs, tous ces gens qui sont là. Parce que moi, ce que je veux, c'est je veux pas qu'on parle simplement de Clémentine ou du fond. Je veux des résultats. Je veux qu'on y arrive. Je veux qu'on s'appuie sur les meilleures recherches possibles pour avoir des résultats en termes de nouveaux traitements, mais aussi en termes de validation des traitements qui existent déjà et qui aujourd'hui sont à la peine. Parce que les autorités sanitaires, les plus hautes autorités sanitaires de ce pays, mettent beaucoup de temps avant parfois de valider des traitements qui pourraient avoir une chance de se battre contre le cancer de certains malades, parce que ce sont des maladies rares, parce que ces traitements concernent en plus des mutations génétiques qui elles-mêmes sont rares. Donc, c'est difficile pour les médecins de constituer des grandes cohortes d'essais randomisés, très très normés comme ça, comme le demande la HAS. Ils savent qu'il y a des résultats sur certaines molécules, mais parfois ils ne peuvent pas les donner aux patients parce que le patient ne peut pas se les payer, parce qu'on parle de traitements qui coûtent plusieurs milliers d'euros parfois par semaine. Les traitements anticancéreux sont des traitements extrêmement coûteux. Donc, s'il n'y a pas de remboursement, s'il n'y a pas d'aide, parfois les médecins se trouvent dans l'impossibilité, et ça, c'est absolument terrible, de donner cette chance aux malades. Donc, on veut aussi agir, comme je te parlais aussi d'action, envers les pouvoirs publics, c'est aussi, dans ce sens-là, dans le sens d'une meilleure prise en compte de ce qu'est la réalité du combat contre le cancer aujourd'hui.
Et dans la poursuite de ce qu'on perçoit de l'impact du podcast de Clémentine, il s'agit donc de donner de la voix, plus de voix et plus de puissance encore aux patients, à leur famille aussi, puisqu'il n'y a, tu le disais, il n'y a pas d'association de patients qui est constituée. Là, c'est aussi l'autre axe. De nombreuses personnes ont pu mieux percevoir l'ensemble des aspects de la vie avec un cancer tel que celui dont on parle. L'écho qu'il a reçu dans le grand public est considérable, on l'a dit tout au long de cette émission, et tu viens de nous le dire, de nombreux patients ont fait savoir qu'ils s'étaient sentis représentés par Clémentine. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de choses sur cette future association de patients? Quel sera son objectif finalement? C'est de défendre les intérêts des patients, mais comment?
Alors, ce sera double. D'une part, ce sera que les patients qui sont touchés par cette maladie, qui sont souvent désemparés, aient une structure dédiée vers laquelle se tourner. Parce que c'est quand même rassurant. Ça montre qu'à l'intérieur de cette structure, il y a des gens qui peuvent leur parler, qui peuvent peut-être répondre à leurs questions de manière parfois un peu plus libre que dans des entretiens avec leurs oncologues, parce qu'il y a des enjeux de traitement. Alors évidemment, il faut faire très attention, parce que il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut pas aller au-delà de ce que dit l'oncologue de la personne, parce que c'est lui qui connaît le dossier médical. Mais il y a une parole qui va être un petit peu plus libre des malades, une possibilité de se renseigner, d'avoir un endroit centralisé pour trouver des informations sur les traitements, leurs conséquences, le parcours de soins, les aides possibles aussi, parce que ça, c'est une chose qu'on n'a pas évoquée, mais on a eu beaucoup de difficultés à trouver les aides auxquelles on avait droit, les aides sociales. Et il a fallu, c'est uniquement l'assistante sociale de l'hôpital Henri Mondor, donc on parle là du mois d'octobre dernier, au moment où Clémentine fait son accident cardiaque, qui nous a appris qu'on avait droit à des soins infirmiers à domicile, à un encadrement par une association qui pouvait nous aider dans les moments difficiles qu'on rencontrait quand Clémentine était à domicile. Tout ça, on ne le savait pas. Et donc, parce que il y a trop de distance parfois avec certaines structures, soit des grandes fondations, soit des structures publiques. Soit tout simplement, ça dépend de l'assistante sociale sur qui vous tombez. En l'occurrence, celle de Paul Brousse n'est pas montrée très efficace.
Donc, il n'est pas facile de connaître ses droits de manière générale, alors encore plus lorsqu'on souffre d'une maladie et qu'on est focalisé sur les soins.
Il faut savoir que des droits, il y en a quand même, il y en a quand même beaucoup, et que ça peut vraiment soulager. D'être un lieu où les malades puissent trouver à la fois une écoute et des informations, ça c'est très important. Et puis cette association de patients, elle va aussi parler aux médecins, justement, parce que ce cancer est rare. Les médecins généralistes souvent rencontrent très peu de cas dans leur carrière, voire pas du tout. Et c'est peut-être ce qui est arrivé à Clémentine au départ. Elle est tombée sur un médecin qui n'était pas très sensibilisé à ça. Et ça peut se comprendre. Il voit arriver une jeune femme de 29 ans, extrêmement sportive. Il va pas spontanément aller penser à un cancer. Donc c'est dire au milieu médical, attention, ce cancer existe, il faut le mettre dans la liste des choses possibles, même s'il est rare, c'est possible, ça arrive, et quand ça arrive, c'est dévastateur, et c'est absolument terrible, c'est une question de vie ou de mort, donc il faut absolument, dès qu'on a la moindre suspicion que ce qu'on voit devant nous est autre chose que peut-être la première hypothèse, il faut y penser. Il faut que ce soit parmi les hypothèses possibles et faire donc les examens qui permettent de détecter le plus tôt possible la présence de cette tumeur parce que elle est extrêmement traîtresse. Elle se développe en silence, sans signe. Et au moment où les premières douleurs apparaissent, il faut aller très 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 vite pour rester opérable.
La professeure nous le disait, hein, c'est d'autant plus important qu'il n'y a pas de stratégie possible de dépistage actuellement, comme pour le cancer du sein. Ce sont toute une série d'examens très spécifiques qu'il faut faire, mais pour ça, il faut donc avoir une suspicion et avoir besoin, donc, en effet, de chercher un diagnostic. Et donc, cela peut aussi occasionner des pertes de chance, ce qu'on peut appeler une errance diagnostique. Il faut, en effet... Tu le dis, renforcer l'information de toutes les parties prenantes, à commencer par les médecins généralistes. La professeure nous le disait. J'ai posé cette question à Cindy Nozillet, comment les citoyens peuvent aider les chercheurs. Elle nous disait, en parler aussi, faire savoir tout ça, c'est important. Quel type d'indication tu peux nous donner sur le calendrier? Alors, il n'y a pas de question piège parce que tu me disais là, tu es vraiment en train de constituer le dossier d'un fonds de dotation, mais toutes les personnes qui vont contribuer à la suite de cet épisode, quelles sont les prochaines étapes pour toi?
La prochaine, c'est la constitution officielle du fonds qui va arriver, j'espère, entre fin mars et début avril, et la publication au journal officiel. Qui sera le point de départ de l'existence juridique de ce fonds. Et après, ça va être à nous d'aller démarcher les structures qui peuvent nous aider, qui peuvent s'embarquer dans cette aventure et contribuer à vaincre ce cancer. Ça, c'est pour moi, c'est une aventure nouvelle. C'est pas des choses que j'ai fait jusqu'à présent.
Oui, tu nous le disais au début, tu es un journaliste, tu n'as pas d'expérience dans la collecte de fonds.
Mais j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie, d'enthousiasme pour cette cause, même si cet enthousiasme il est bien lourd, malheureusement.
On l'entend avec force et aussi une détermination dans ta voix et aussi dans le choix de ce mot de vendetta, mais on entend aussi que tu n'es pas tout seul, qu'il y a les proches, les amis de Clémentine, ses auditeurs, beaucoup de membres de la communauté médicale aussi, j'en suis certain, qui se sont sentis proches, même sans la connaître, à travers l'écoute de ce podcast. Évidemment, c'est un autre moyen de soutenir cette cause, c'est de continuer à partager, écouter et diffuser le podcast de Clémentine Vergniaud. Je mets toutes les informations dans la description de cet épisode. Grégoire, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais à la fin de cette émission, j'ai l'habitude de poser une question que j'appelle la question bonus. C'est-à-dire que comme le podcast s'appelle « Ces voix qu'il faut entendre », je demande un peu à chaque invité de nous recommander une voix qu'il ou elle nous conseillerait d'entendre. Est-ce que tu veux nous conseiller une voix à entendre ?
Ça a été une question très facile parce que en faisant tous ces allers-retours à l'hôpital, en allant voir Clémentine, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Et moi, la voix que je recommande d'entendre, c'est celle de Joseph Kessel, l'écrivain, journaliste, à travers un podcast qui s'appelle « Les mille et une vies » de Joseph Kessel, un podcast de France Culture, et qui raconte la vie de cet écrivain, mais qui diffuse de larges extraits de ses interviews. D'abord, cette vie, elle est extraordinaire. C'est un roman à soi tout seul. Et puis, elle est extraordinairement profonde. Joseph Kessel a aussi fait face à la mort précoce de sa première épouse. Et c'est quelque chose qui l'a marqué à travers ses œuvres. Et il ne l'a jamais oublié. Et c'était un homme d'une très grande générosité de sa personnalité. Et puis il y a cette voix qui est une voix très haut perchée, comme ça, très chaude, grave, de cet homme très grand. C'est tout son corps en fait qui est dans sa voix. Et moi, au cours d'une de ses interviews, il a dit une chose que j'ai notée et qui me suivra toute ma vie en fait. Et peut-être même après. Il dit « Heureux je ne suis pas, mais je remercie le destin de m'avoir offert la vie qu'il m'a offerte. » C'est une petite phrase toute simple, mais je trouve qu'elle elle résonne à l'infini.
Grégoire Le Callot, merci beaucoup. Tu es toi aussi une voix à entendre. On peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux pour garder le lien avec toi et donc évidemment suivre les étapes de la poursuite de ce combat si important et plein de sens. On compte sur la générosité des auditrices, des auditeurs pour contribuer à cette lutte, à cette vendetta. Toutes les infos pratiques sont à retrouver dans les notes de l'épisode. Merci Grégoire d'être passé dans cette émission.
Merci à toi et puis merci à tous les auditeurs qui nous accompagneront tout au long de cette écoute.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.